Alors bonsoir, je suis très contente d'être ici, d'être aux archives. Je suis doublement contente en fait, c'est ma rentrée aux archives et puis c'est ma rentrée tout court, c'est mon retour à la vie sociale parce que je viens d'avoir un bébé. Donc du coup les nuits sont hachées, donc il y aura des lapsus, très certainement. Donc soyez indulgents, si parfois je m'en mêle. Oui, bah, de toute façon c'était pour des bêtises, donc c'est pas grave. Maintenant je me mets. Bien, alors nous allons parler ce soir de Caravage, et nous allons parler plus précisément de son destin tumultueux. Caravage, c'est un peintre italien, né dans le dernier tiers du XVIe siècle, mort dans les premières années du XVIIe siècle. Et c'est un peintre dont la vie de bohème a longtemps empiété sur l'analyse objective de l'œuvre. C'est un artiste novateur qui a marqué son époque en insufflant à sa peinture à la fois une forme d'authenticité, de singularité, et en même temps, il a mené une vie très aventureuse, très tumultueuse, qui va être profondément dénigrée et, comme je l'ai dit tout à l'heure, va en grande partie empiéter sur l'analyse objective de l'œuvre. Je voulais ouvrir le cours par l'extrait d'un roman de Dominique Fernandez. Dominique Fernandez, c'est un écrivain, un grand spécialiste de l'Italie, et il y a quelques années, il a publié un livre qui s'intitule « La course à l'abîme ». Et dans ce livre, il donne la parole à Caravage, qui fait un peu le bilan de son existence et qui se confie, parfois avec beaucoup de crudité, en tout cas avec beaucoup de franchise et beaucoup de beauté, sur ce que fut sa vie. Donc je laisse la parole à Dominique Fernandez pour introduire mon propos. Fin spectaculaire, à la fois grandiose et sordide, conforme à l'idée que vous vous êtes faite d'un peintre non moins célèbre par ses scandales que par ses tableaux. Tragédie des bas-fonds qui a l'avantage pour vous de combiner deux mythes. D'abord, le mythe de l'artiste maudit. La situation dont jouissent mes confrères, je n'en veux pas. Cocon, carcan. Je vomis le confort, la carrière, les honneurs. Je n'ai pas rompu avec la tradition, mis sans dessus dessous la peinture, inventé à neuf la lumière pour imiter Titien, et mourir, comme lui, à 86 ans, couvert de lauriers et riche à millions. Risquer sa peau dans des aventures pendables, voilà le genre de celui qui manie l'épée aussi bien que le pinceau. Je tue et j'accepte d'être tué. Asocial, amoral, graine de vaurien, gibier de potence, reconnaissez que je suis parfait dans ma catégorie. La justice toujours à mes trousses, les spadassins toujours aux aguets, regardez ce que j'ai fait de ma vie. Un précipice, une course vers la mort. Ce caractère n'est à l'aise que dans la violence, l'excès, la démesure. Pas d'accomplissement en dehors du crime, ni d'autre apothéose que dans l'abjection. Et justement, je suis là pour incarner un second mythe, celui du vagabond sans règle ni loi, de l'hérétique voué au vice innommable, du réprouvé qui appelle sur lui l'anathème, du factieux qui renie son propre cœur. Enfin, pour le dire d'un mot, du sauvage qui vit dans l'anarchie de ses instincts, avide de faire ses sauts quand l'occasion s'en présente. Faire du sexe, car faire l'amour, serait la réminiscence d'une époque dépassée. Faire du sexe avec chaque garçon qui me plaît, il paraît que je n'ai pas eu d'autre credo. Cazzo et culo, rageusement, dangereusement. En pleine église catholique, apostolique et romaine, braver Moïse et saint Paul, bafouer les prêtres, défier le Saint-Office, narguer le bûcher. Ceci étant posé, Caravage, je l'ai dit tout à l'heure, a eu donc un destin très tumultueux, et donc il meurt dans les premières années du XVIIe siècle, et la critique, les siècles suivants, a eu un jugement très complaisant, pour ne pas dire très méprisant, sur Caravage. Et c'est vrai que ce qui revenait en boucle, c'était vraiment le leitmotiv, c'était cette vie dépravée que menait le Caravage. Et en fait, il faut attendre le XXe siècle pour qu'il y ait une analyse à nouveau sérieuse, objective, et elle est menée par un historien de l'art italien qui s'appelle Roberto Longhi. On est dans les années 1920. Et à ce moment-là, donc, Caravage est considéré, certes, comme un artiste talentueux, mais comme un artiste profondément iconoclaste, profondément provocateur. Et cette vie de bohème qu'il a menée est un leitmotiv qui revient constamment dans la bouche des critiques. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas du tout un travail d'une rigueur objective, d'une rigueur scientifique sur son œuvre et sur toutes les inventions qu'il a menées. On a vraiment un jugement de morale sur ce qu'était sa personne et sur ce qu'étaient ses choix. À cette époque, on dit que Caravage a détruit la peinture. Cette expression, cette destruction, elle ne date pas du XXe siècle, elle est bien plus antérieure. Elle est l'expression d'un contemporain du Caravage, et pas des moindres, Nicolas Poussin, qui est le grand artiste français du XVIIe siècle, qui incarne le classicisme, et qui donc avait un jugement extrêmement sévère, pour ne pas dire radical, sur le Caravage. Donc on va tenter de comprendre, aujourd'hui, ce qui a poussé les contemporains de Caravage à porter un jugement si tranché. Caravage va apparaître donc à la fin du XVIe siècle, dans une époque marquée par une peinture pompeuse, bigote. Alors forcément, on va le voir, toute la crudité, toute la simplicité des scènes conçues par cet artiste vont faire l'effet d'une nouveauté radicale et parfois vont choquer. On va critiquer, on va conspuer le côté irrévérencieux de certaines de ses œuvres. A fortiori, je l'ai dit, mais ça je vais le répéter à plusieurs reprises, Caravage mène une vie de bohème, fréquente des lieux interlopes, donc il est considéré comme un vaurien. C'est un leitmotiv, c'est un topos que l'on retrouve dans l'œuvre de ses biographes. J'en ai cité quelques-uns, je pense notamment à l'un des familiers du pape Urbain VIII, qui s'appelait Giulio Mancini. Et Mancini était un collectionneur et il écrit à propos du Caravage « Notre siècle doit beaucoup à Michelangelo da Caravaggio à cause de cette nouvelle manière de colorer qu'il a introduite et qui est maintenant suivie et adoptée par beaucoup. » Il importe de dire que sa grande science d'artiste était doublée d'une grande extravagance de mœurs. De même, Giovanni Baglione, contemporain Caravage, artiste, qui a été d'ailleurs un temps influencé par sa leçon du clair-obscur et qui va par la suite s'en écarter, écrit de façon extrêmement méprisante, « D'esprit bouillonnant, Michelangelo mena une vie plutôt dissolue. Il chercha volontiers les occasions de se rompre le cou ou de mettre en danger la vie d'autrui. » Donc, les jugements de valeur empiètent sur sa vie dissolue, les jugements de valeur sur sa vie dissolue empiètent sur l'analyse de son œuvre. Je l'ai dit tout à l'heure, Caravage va émerger dans un contexte particulier, c'est le contexte de la contre-réforme. Alors la contre-réforme, pour résumer, c'est l'ensemble de mesures prises par l'Église catholique et romaine pour contrer la réforme protestante. La réforme protestante, elle critiquait notamment l'utilisation des images. Et donc l'Église catholique et romaine va vouloir affirmer sa primauté, va vouloir affirmer son pouvoir, sa légitimité, et notamment par le biais des images. Cette réforme, petit rappel historique, elle émerge au XVIe siècle, elle va durablement ébranler la chrétienté, elle va donner naissance à une nouvelle religion radicale, le protestantisme, qui à l'époque va faire l'effet d'une bombe. Le XVIe siècle, il est émaillé d'affrontements religieux dans toute l'Europe. Pour autant, cet idéal de réforme, il n'était pas nouveau. Pendant toute la période médiévale, il y a des volontés de réformation de l'Église qui ébranlent la chrétienté. Mais là, on a une dimension totalement inédite. Et on a surtout, en parallèle, beaucoup d'affrontements, beaucoup de conflits religieux. Donc l'Église catholique et romaine, elle est à un moment crucial de son existence et elle éprouve le besoin de réaffirmer son autorité. Donc la contre-réforme est un contexte très particulier. Deux dates importantes pour cette contre-réforme, 1545-1563, ce sont les dates du concile de Trente, concile voulu par le pape Paul III. Et parmi les buts proposés par ce concile, il y a cette volonté de mettre l'art au service de la foi. En réaction contre la sévérité du culte protestant, en réaction également contre certaines ambitions iconoclastes de réformateurs, l'Église catholique veut encourager l'éclat du culte et elle veut encourager un certain faste. L'Église veut également encourager une certaine connivence, un certain rapprochement avec le sacré. Et justement, Caravage, il va exceller dans l'instauration de cette intimité avec le sacré. Alors ça va être parfois extrêmement décrié, mais ça va être la force de son œuvre, ça va aussi mettre le sacré à portée de l'humain. Et donner à ses œuvres une dimension totalement inédite. Il va exceller dans l'instauration de cette connivence. Caravage, de son vrai nom, Michelangelo Merisi, naît donc dans le dernier tiers du XVIe siècle, en 1573 plus exactement, en Lombardie. Il est issu d'une famille aisée et très tôt, il va entrer en apprentissage dans l'atelier d'un artiste qui à l'époque est très connu, qui malheureusement est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Simone Peterzano. Simone Peterzano, c'est un maniériste. Le maniérisme, c'est un courant qui est très en vogue en Italie au XVIe siècle, qui est caractérisé par des couleurs très excessives, des postures alambiquées, qui s'exacerbent dans des combinaisons très capricieuses. C'est vraiment l'art du trop. Caravage va s'inscrire dans une démarche totalement différente, on va le voir. Cet apprentissage chez Peterzano, il est fondateur. Mais Caravage va être davantage marqué par toutes les recherches menées par ses contemporains en Lombardie. Et ses contemporains, à l'époque, s'intéressent à une vision très, très simple, très réaliste de la vie. Et ils vont, pour favoriser ce réalisme, pour favoriser cette simplicité, avoir un usage de la lumière, de la couleur, très, très particulier. On est déjà dans l'ébauche d'un clair-obscur, mais un clair-obscur très cru. C'est pas du tout des scènes idéalisées, c'est pas du tout des scènes nappées d'une lumière mystérieuse. On est vraiment dans quelque chose de très simple et de très cru. Un bon exemple, je le cite parce que c'est un artiste qui a eu une influence très forte sur Caravage, c'est Girolamo Savoldo. C'est un tableau intitulé « Saint Matthieu et l'Ange ». Et voilà, bah, j'évoquais le clair-obscur, là on le prend en pleine figure, la lumière elle éclaire la tunique de Saint Matthieu, donc le personnage est mis en valeur, il est singularisé dans cet espace, et finalement le regard se penche sur ce personnage, et ce n'est qu'au bout d'un second temps qu'il s'aperçoit qu'il y a un ange, et qu'il s'aperçoit qu'au second plan, il y a une scène également dans la pénombre. Autre artiste qui a influencé le Caravage, Vincenzo Campi. J'ai pas choisi cette œuvre par hasard, en fait elle est au musée des Beaux-Arts de Lyon. Je vous parlais tout à l'heure d'une certaine simplicité, d'une certaine crudité, renforcée par ce clair-obscur qui vient éclabousser les personnages. Bon bah là, dans un tableau comme celui-ci, on le voit d'emblée. En plus on a un cadrage serré, quasi photographique, donc on est englué dans cette scène de festin avec ces mangeurs de ricotta qui sont très caricaturaux, qui sont très grimaçants et qui sont dans l'abondance et dans l'orgie. Donc tous ces artistes-là vont avoir une influence sur le Caravage qui quitte quelques années plus tard la Lombardie pour se rendre à Rome. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on est dans le contexte de la contre-réforme, et dans ce cadre-là, Rome, c'est un chantier urbanistique et artistique grandiose. Les papes, les princes multiplient les commandes, sollicitent de nombreux artistes. Rome est à cette époque une ville très cosmopolite. Il y a une sorte d'effervescence artistique, une émulation extraordinaire qui règne dans cette ville. Donc forcément, Caravage est happé par cette énergie qui se dégage de la ville. Mais au début, il vit très pauvrement. Il a très très peu de commandes. Il erre de lieu d'accueil en lieu d'accueil. Il ne vit pas de son art. Rome, à ce moment-là, donc, vit dans les derniers feux du maniérisme, hein, cette peinture très pompeuse, très alambiquée, et Caravage va radicalement insuffler quelque chose de nouveau, il va insuffler une forme de réalisme, une forme de prosaïsme totalement inédit. On a une description de Caravage tirée des archives criminelles, c'est vous dire donc la vie tumultueuse qu'il mène à cette époque. Et dans cette description, qui date de 1597, on décrit Caravage comme étant, je cite, « un vigoureux jeune homme, de 20 à 25 ans, trapu, avec une barbe noire en broussailles, avec des sourcils épais, qui va vêtu d'un habit noir débraillé et porte une paire de chausses noires un peu déchirées, et dont la tête est couverte d'une abondante chevelure noire retombant sur son front. » Donc un personnage assez obscur, assez sombre, et qui effectivement va fréquenter les lieux interlopes et malheureusement très souvent se battre. On va le voir par la suite. Donc Caravage vit très pauvrement et il va faire quelques temps après une rencontre fondamentale. Il va rencontrer un cardinal, le cardinal Del Monte, qui devient son mécène. Alors Del Monte, c'est un personnage assez atypique aussi, hein, donc c'est un homme d'église, et pourtant il mène une vie un peu dissolue, il aime les jeux de hasard, il aime les jolies femmes, il ne s'en cache pas, donc c'est une personnalité un peu iconoclaste pour l'époque. C'est un personnage très important, Del Monte, parce que c'est un diplomate, et il représente le grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier de Médicis. Donc c'est un personnage très puissant, un personnage très fortuné, et il va grandement aider Caravage à ses débuts parce qu'il va lui passer de nombreuses commandes. La période romaine, chez Caravage, elle est caractérisée par des tableaux de moyenne dimension, avec des personnages à mi-corps, souvent très androgynes. Je l'ai suggéré tout à l'heure, Caravage aime les garçons, les jeunes garçons, et donc il n'est pas rare de voir dans ces tableaux des jeunes hommes très beaux, très aguicheurs. Alors ce n'est pas le cas pour ce Bacchus malade. Bacchus, c'est le dieu du vin dans la mythologie romaine, donc c'est une divinité synonyme de griserie, de joie, de gaieté. Là on est très loin d'une figure légère, on est très loin d'une figure joyeuse. Ici Bacchus est blême, le sourire grimaçant, il est recroquevillé, il serre fortement cette grappe de raisin, si on en juge la contraction des muscles. On est dans une image qui met mal à l'aise, parce que ce jeune homme qui est censé évoquer l'enthousiasme, la joie et la légèreté, insuffle une certaine tristesse, un certain malaise. Autre jeune homme, le jeune garçon à la corbeille de fruits. C'est un tableau qui est conservé à Rome, à la Galerie Borghese, tout comme le tableau précédent. Et je vous parlais tout à l'heure de l'amour de Caravage pour les jeunes garçons. Bon ben voilà, là on a le jeune garçon dans toute sa beauté, dans toute sa fraîcheur, avec cette attitude très indolente, très désinvolte. Cette impression, elle est renforcée par la posture du jeune homme. Il a la tête légèrement renversée, il a les traits délicats, et cette allure très douce, très affectée, elle contraste du coup avec le corps très musclé. On a une tête très juvénile et on a un corps par contre très musculeux. Et on sent notamment toute la tension des bras qui en serrent cette corbeille de fruits. J'évoquais tout à l'heure le fait que le cardinal Del Monte, qui est donc l'un de ses protecteurs, avait une vie un peu dissolue. Le cardinal Del Monte lui commande vers 1594 ce tableau, Les Tricheurs, donc on n'est pas étonné du coup du choix de ce thème. On est dans un lieu interlope, hein, les lieux de prédilection du Caravage, les lieux de prédilection également des tricheurs, des diseuses de bonne aventure, des personnages que Caravage va traiter souvent au cours de sa carrière. Ici, là, on a la scène de la tricherie, puisqu'on a ce personnage au premier plan qui est tourné dos au spectateur, qui observe d'un air attentif les joueurs, et on voit qu'il dissimule derrière son dos des cartes, et donc qu'il est en plein dans la tricherie. Autre commande du cardinal Del Monte, les musiciens. Un cadrage très resserré. Tout à l'heure, je vous montrais le tableau de Vincenzo Campi, Les Mangeurs de Ricotta, qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et je vous avais parlé de ce cadrage très serré, quasi photographique, qui nous englobait dans la scène. Et bien, Caravage s'est sans doute souvenu de cette leçon. Il va beaucoup affectionner ce type de cadrage. Toujours la représentation de la Genèse. Alors, j'attire votre attention sur le deuxième personnage en partant de la droite, qui observe le spectateur et qui serait en fait un autoportrait de Caravage. Au départ, il n'y a pas beaucoup de scènes religieuses. L'une des premières scènes religieuses traitées par Caravage, c'est cette œuvre-là, Le repos pendant la fuite en Égypte. C'est une scène religieuse tirée du Nouveau Testament, de l'Évangile de Saint Matthieu. C'est la fuite de Marie, de Joseph et de Jésus pour échapper à la mise à mort des enfants de Bethléem qui est ordonnée par le roi Hérode. Donc c'est une scène tragique, hein. Tous les enfants de Bethléem sont massacrés, c'est le massacre des innocents, et on a cette fuite de Marie, de Joseph et de cet enfant. On a une scène très très simple ici, dans la nature, une scène faite de simplicité, faite d'humilité. Il y a plein de détails en fait qui évoquent cette humilité, notamment les pieds de Joseph qui sont recroquevillés l'un sur l'autre. Alors la qualité n'est pas très bonne, mais en fait les pieds sont sales. C'est vraiment un vieillard fatigué là, parce que la route a été longue, parce qu'il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse. Et Joseph n'est pas du tout représenté comme un personnage valeureux, vigoureux. Au contraire, il est dans toute sa vulnérabilité, dans toute sa fragilité. Et de même, la figure de la Vierge Marie, appesantie par la fatigue, appesantie par l'inquiétude, serrant cet enfant dans les bras, évoque aussi la fragilité, la vulnérabilité. Et finalement, dans cette œuvre-là, la seule chose qui insuffle le divin, c'est cet ange. Qui n'est pas positionné par hasard, il est pratiquement au centre du tableau, il est comme un pivot dans cette scène, il est mis en valeur, la lumière l'éclabousse, et il est d'une beauté formelle incroyable par rapport aux autres personnages. C'est-à-dire que si on observe bien le tableau, on se rend compte que Caravage s'est beaucoup appliqué à peindre chaque détail de cet ange. Il y a ce drapé tournoyant, il y a le détail des plumes de ses ailes, qui est un travail extrêmement précis, extrêmement minutieux, et qui contraste avec le traitement des autres personnages. Tout est fait, aussi bien au niveau de la mise en scène, au niveau de la luminosité, au niveau du traitement, pour singulariser cet ange et pour manifester le divin dans une scène a priori très prosaïque. Autre œuvre religieuse, la Madeleine repentante. Madeleine, c'est la pécheresse pardonnée par Jésus, une figure familière, une figure faillible, très proche de nous, donc c'est une figure de choix pour la rhétorique post-tridentine, post-concile de Trente. Et on a une vision très, très marquante de cette Madeleine repentante, on a une vision en plongée. Et du coup, le repentir de Madeleine est d'autant plus vif et suscite d'autant plus la compassion, la solidarité. La position de Madeleine, elle est échevelée, la tête est affaissée sur la poitrine, elle est toute avachie, les mains sont croisées. Toute cette position-là accentue l'impression de tristesse, suggère son humilité, suggère son repentir, pour reprendre le titre du tableau. Madeleine est focalisée sur sa douleur. Elle délaisse les plaisirs terrestres, qui sont manifestés dans la partie gauche du tableau, ce sont les bijoux qui symbolisent ces plaisirs terrestres et toute leur vacuité, toute leur inanité. Madeleine, elle est recentrée sur le plus important, sur son repentir. Un tableau très simple, le fond est juste brossé, on n'a pas vraiment d'indication de lieu, et on retrouve cette même économie de moyens, et du coup cette même efficacité, dans la diseuse de Bonaventure, conservée au musée du Louvre. Économie de moyens aussi, parce que les personnages sont plaqués sur un fond neutre, ils en sont d'autant plus monumentaux, d'autant plus imposants, et le focus est efficace, d'autant plus que les personnages sont représentés à mi-corps. Du coup, on est face au boniment et au larcin de cette diseuse de Bonaventure qui contemple d'un air chameur le jeune homme, qui a l'air totalement niais en l'observant et qui ne se rend pas compte du coup qu'elle est en train de lui subtiliser sa bague. Toujours ce goût pour les lieux interlopes et pour les personnages de mauvaise vie. On plonge dans le religieux. On fait une incursion dans l'Ancien Testament avec Judith et Holoferne. Judith, c'est l'histoire de cette femme qui résiste aux assauts d'Holoferne dans le contexte des guerres menées par le roi assyrien Nabucodonosor. On est au 7e siècle avant Jésus-Christ, pour la petite histoire. Et elle résiste aux assauts d'Holoferne et elle le décapite. Le tragique, là, est exacerbé par la mise en scène, très théâtrale, le rideau rouge qui semble s'effondrer sur Holoferne valorise le geste de Judith et fait écho au sang qui gicle du cou d'Holoferne. C'est une scène très frappante, très crue. On voit toute l'horreur, toute la stupeur sur le visage d'Holoferne qui est figé dans l'effroi. Et on voit l'effort physique de Judith qui est arqué sur sa tâche, hein, arqué par l'effort, les sourcils froncés, les poings serrés autour de l'épée et autour de la chevelure d'Holoferne. Donc on est vraiment dans quelque chose de très physique, dans un combat très physique. Et il y a un autre personnage qui vient insuffler également une tension dans cette œuvre, c'est cette servante qui observe d'un air extrêmement sérieux, extrêmement anxieux la scène et qui serre de ses poings un tissu, prête à recueillir le chef d'Holoferne. Donc on a vraiment une tension palpable dans cette œuvre-là, tension qui est rehaussée par l'horreur de la scène, et Caravage, de ce point de vue-là, il va allègrement avec cette représentation du sang qui vient éclabousser les draps blancs du lit. Autre œuvre horrifique, et toujours ce goût pour le sang et la chair, la fameuse Tête de Méduse, conservée au musée des Offices de Florence. C'est une commande de Del Monte, encore lui, pour Ferdinand Ier de Médicis. Hein. Je vous avais expliqué que Del Monte est un diplomate et qu'il représente donc Ferdinand Ier de Médicis. Méduse, dans la mythologie grecque, c'est l'une des trois gorgones qui s'unit une nuit à Poséidon dans un temple d'Athéna qui, furieuse de ce sacrilège, décide de la changer en monstre, et donc figure monstrueuse avec cette chevelure de serpent qui, d'un seul regard, figeait les hommes en pierre. Et c'est Persée qui lui tranche la tête et qui met fin à cette malédiction. Donc là, Caravage a choisi de représenter seulement le chef de la Gorgone, de présenter ce visage décapité, grimaçant, ensanglanté. On a ce regard hallucinant avec ses yeux hébétés, exorbités, qui fixent le spectateur. On est vraiment dans quelque chose de très frontal, de très conflictuel. Et le fait d'avoir choisi un support circulaire qui évoque le bouclier, qui évoque l'arme, vient renforcer cette impression de conflit. On a vraiment une vision horrifique et brutale qui saisit le spectateur. Il y a un très beau livre qui a été publié il y a quelques années, et qui a été écrit par Dominique Ponneau. Dominique Ponneau, c'est un historien de l'art, et le livre est intitulé Caravage, une lecture. Et Dominique Ponneau a choisi certaines œuvres du Caravage et les a décrites. Je vous lis l'extrait qui concerne cette œuvre, qui est la description qu'il fait de la Méduse est d'une beauté extrême, d'une infinie poésie. C'est beaucoup plus éloquent que je pourrais dire. Donc pour le plaisir des mots, je vous la lis. L'horreur est ici dans la beauté. L'horrible est que l'horreur soit belle. En son horreur, la beauté puise son effroi. Vie plus effervescente ne peut surgir, la vie d'une tête coupée. Yeux, bouche, giclée du sang, branle-bas des serpents, tout hurle dans le meurtre, l'abomination de vivre. De qui est ce visage? D'une femme? La mythologie dit, c'est Méduse. Mais le bouclier? D'une femme ou d'un homme ce visage? D'un monstre? D'un adolescent, du peintre, du jeune peintre qui s'est peint, ce visage, à peine sexué, est puissant. Si puissant et de sexe incertain, très beau, la peau fine, sans défaut, sourcils bien dessinés, nez pur, pourtour des yeux comme des mandorles, point de cils, paupières en arc tendu, œil échancré dans l'ombre, bouche aux lèvres parfaites, de belles chairs aux belles dents, ouvertes comme un gouffre, hurlant, muette. Guirlande vivide des serpents, chevelure folle, forte et ivre, casquée sur la tête, son nid. Bestialité superbe, vivante à jamais. Yeux exorbités, gouffre béant sur pire épouvante que de se voir. Fraise de sang, giclée sur le verre, buisson des serpents, ardent, sifflant sa gigue. Alors difficile de passer à l'œuvre suivante qui est radicalement différente, c'est la corbeille de fruits. Donc un peu de paix et de beauté immuable dans cette nature morte très célèbre. Hein, c'est l'une des natures mortes les plus célèbres de l'histoire de l'art. Pourquoi elle est célèbre, cette nature morte? C'est assez simple finalement de peindre une corbeille de fruits. Elle est célèbre parce qu'elle est très percutante, elle est disposée sur un fond neutre, elle est valorisée par ce fond neutre, elle est l'héroïne du tableau, cette simple et sobre nature morte. Et on a vu que Caravage s'était intéressé à la nature morte de façon anecdotique. Pensez au Bacchus malade que je vous présentais tout à l'heure, pensez au jeune homme portant la corbeille de fruits. Mais voilà, elle était anecdotique. Et là, elle est l'objet même du tableau. C'est une nature morte héroïsée en quelque sorte. C'est une œuvre qui a appartenu à Frédéric Borromée. C'est un nom qui ne vous parlera pas forcément. C'était un homme d'église, hein. Il était archevêque de Milan. Et c'était un homme très connu à l'époque parce que ça a été un des grands champions de la contre-réforme. Et ça vous montre bien que les œuvres de Caravage, même si parfois elles étaient dénigrées, elles étaient aussi désirées par les plus puissants. Et de fait, les plus puissants se sont battus parfois pour obtenir et pour collectionner ces œuvres. On a vu que Caravage avait peint quelques scènes religieuses de format relativement modeste. Et grâce à Del Monte, il va pouvoir avoir des commandes beaucoup plus prestigieuses. Et c'est notamment le cas d'un cycle de peinture consacré à Saint Matthieu qu'il réalise pour l'église Saint-Louis des Français à Rome. Alors l'église Saint-Louis des Français, comme son nom l'indique, c'était une église qui a été financée par les rois de France, donc elle était dédiée tout logiquement à Saint-Louis. Et dans cette église, il y avait une chapelle privée qui appartenait à Matteo Contarelli, qui était français d'origine. De son vrai nom, c'était Mathieu Cointrel, c'était un prélat français. Il a contribué aux travaux de l'église, et donc pour décorer cette chapelle privée, il a sollicité Caravage. Caravage obtient cette commande grâce à l'entremise de Del Monte, et c'est sa première commande publique. Donc c'est vraiment un défi d'envergure pour lui. C'est un défi majeur, parce que les tableaux, on va le voir, sont de dimensions très très importantes, alors que jusqu'à maintenant, Caravage avait choisi des formats plutôt réduits. Trois tableaux pour cette église Saint-Louis des Français, consacrée à Saint Matthieu, ce publicain, ce percepteur des impôts, qui tenait le poste de douane à Capharnaüm avant d'être sollicité par Jésus et avant de le rejoindre. Alors, le premier tableau que je voulais vous présenter, c'est la vocation de Saint Matthieu, clair-obscur, qui nappe la scène d'un certain mystère, et on a relégué dans la partie droite du tableau Jésus, qui entre dans ce poste de douane et qui, d'un geste, désigne Saint Matthieu. Et on a ce geste très solennel et on a tout ce jeu de mains qui symbolise un peu le dialogue silencieux qui se met en place dans ce tableau-là. On a le geste de Jésus, on a le geste de Pierre qui l'accompagne et on a surtout ce geste de Matthieu un peu surpris, un peu décontenancé, comment c'est à moi qu'on s'adresse, oui, c'est à toi qu'on s'adresse. Et tout ce geste, toute cette gestuelle, tout ce balai de mains et de doigts vient matérialiser la surprise de Saint Matthieu et vient ancrer cette scène symbolique dans le quotidien du spectateur qui se met à la place de Saint Matthieu. Tiens, comment j'aurais réagi moi si Jésus était venu à moi et m'avait demandé de le suivre? Et ça va être une des caractéristiques de Caravage, on va le voir, dans certains de ses tableaux, il y a très souvent ce balai des mains et des doigts pour manifester la surprise. Et cette espèce de chorégraphie va rendre le tableau plus proche de nous. Le martyr de Saint Matthieu. Matthieu est martyrisé en Afrique, il s'était opposé au mariage d'un roi païen, il avait converti la fiancée qui lui était promise et il est assassiné alors qu'il célébrait la messe. On a dans ce tableau toujours ce clair-obscur, hein, ces couleurs très, très sombres, flashées par la lumière qui vient exacerber le drame de la scène. Ici, on est dans la cohue. Et les contrastes entre ces tons sombres et âpres et ces teints blafards renforcent la brutalité de la scène. Et il y a quelque chose de très mouvant dans ce tableau qui est renforcé également par l'apparition de l'ange, une apparition tout en déséquilibre. On a l'impression qu'il surgit des nuées. En fait, il est en train de remettre la palme du martyr à Saint Matthieu, qui est déjà à terre et qui est en train d'être achevé par son bourreau. Et c'est une scène qui est très, très brutale. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le clair-obscur vient renforcer cette brutalité, vient insinuer une tension très forte, et le fait qu'on ressente de plein fouet cette brutalité, il est le fruit d'une astuce de Caravage qui ne va pas mettre Saint Matthieu au centre de la scène, mais qui va choisir de mettre le bourreau au centre de la scène. Et si on observe bien ce tableau, en fait, tout s'ordonnance autour de la figure du bourreau. Un bourreau qui est grimaçant, il est arqué dans l'effort, hein, le but, la tâche, tuer Saint Matthieu. Donc on est vraiment dans quelque chose de très brutal, de très conflictuel. On est dans l'acharnement pur et simple. Dernière toile qui vient clore ce cycle de Saint-Louis des Français, Saint-Matthieu et l'ange. Là aussi, tout est déséquilibre, tout est fougue. La position de Saint-Matthieu qui est agenouillé, regardez le tabouret qui est en déséquilibre, on a l'impression qu'il va chavirer dans l'espace du spectateur. La position de l'ange aussi, qui est cerclé dans un drapé tournoyant, qui vient surplomber Saint-Matthieu. Et cette impression de mouvement, cette impression de déséquilibre, elle est d'autant plus frappante, elle est d'autant plus prégnante que l'intérieur est très sobre. On a un intérieur très dépouillé, avec cette couleur noire omniprésente. Et donc, du coup, on se focalise sur l'apparition de l'ange qui prend une dimension d'autant plus sensationnelle, d'autant plus extraordinaire. La commande de Saint-Louis des Français, donc c'est une commande très prestigieuse, et elle va signer la vogue du Caravage. Et alors à partir de ce moment-là, on a tout un tas de poètes, d'artistes qui vont se faire grands communicants et qui vont évoquer avec emphase, avec enthousiasme, l'œuvre de Caravage. Donc à ce moment-là, on a toute une légende dorée qui se met en place avec les adorateurs du Caravage et parallèlement toute une légende noire qui va être insidieusement alimentée par des artistes jaloux, très souvent, parce qu'on est jaloux de ces commandes prestigieuses, et on est jaloux surtout de cet homme qui, en pleine contre-réforme, agit de façon très provocante et qui a des choix de vie qui, à l'époque, heurtent fortement les mentalités. Autre cycle religieux important, celui que Caravage peint pour l'église Santa Maria del Popolo à Rome. C'est un cycle qui est composé de deux tableaux, l'un consacré à Saint Paul et l'autre consacré à Saint Pierre. Alors le premier tableau, la conversion de Saint Paul. Saint Paul, c'est un personnage biblique important qui, de persécuteur des chrétiens, devient un disciple, devient un apôtre qui va diffuser l'enseignement du Christ. Et c'est sur la route de Damas qu'il est frappé par la révélation de Dieu. Alors frappé, le mot n'a jamais été aussi adéquat ici, puisque Paul est à terre, totalement assommé par la révélation divine. Et justement, c'est une façon de faire qui est très inédite, très, très déroutante aussi. On est frappé par son visage stupéfait, par sa posture. Il est écrasé sur le sol, ça indique la surprise, mais ça indique aussi l'effroi. Et ça, c'est une vision totalement inédite. Comment un homme qui reçoit la révélation de Dieu pourrait en être effrayé? Bien au contraire, c'est un honneur. Alors que là, Paul n'est absolument pas rassuré le spectateur, du coup, ressent cet effroi, ressent cette peur. Et ce qui vient renforcer cette impression de peur, c'est aussi ce cheval avec cette croupe énorme, complètement disproportionnée, qui vient comme écraser Saint Paul et qui vient surcharger l'espace du spectateur. Et finalement, dans cette scène très simple, un peu déroutante pour nous, eh bien, la lumière, le traitement de la lumière, vient contrebalancer nos impressions, nos a priori, et vient instiller le sacré. Une autre œuvre qui frappe par le choix de sa mise en scène, donc, c'est le pendant, le martyr de Saint-Pierre, toujours dans cette église Santa Maria del Popolo, et la mise en scène, là aussi, frappe. On n'est pas du tout dans une vision du martyr noble et édifiante, on est dans une vision du martyr très doux, très déroutante, très douloureuse, puisque... Ne vous fâchez pas. on est dans une vision très douloureuse du martyr qui vient susciter l'adhésion, et qui vient susciter la compassion. C'est une œuvre très déroutante parce qu'on est dans un espace clos, un espace du coup très oppressant. L'obscurité qui est omniprésente vient renforcer cette impression d'oppression. Et ce qui vient également renforcer cette impression d'oppression, c'est le cadrage. Un cadrage très serré, choisi par Caravage. Le martyr est vu au plus près, les personnages sont massés, en partie coupés, tout comme la croix du martyr, qui qui n'est que partiellement visible. Et on a le corps de Saint-Pierre, ce corps vieux, ce corps fatigué, qui est vu en plongée et qui est dans l'effort. On voit notamment au niveau du torse, au niveau des bras, l'ultime effort de Saint-Pierre sur cette croix qui signe sa fin, puisqu'il meurt sur la croix. Et il meurt à l'envers sur la croix, au contraire de la mort du Christ. Hein. Pierre ne s'estimait pas digne de mourir comme le Christ sur la croix. Donc du coup, on a un espace totalement escamoté et le spectateur éprouve une sensation d'inconfort, de malaise très persistant. Et toujours ce clair-obscur qui vient renforcer la tension dramatique de la scène. Alors, autre évocation dramatique des mystères de l'écriture, la mort de la Vierge. C'est un tableau monumental, hein, lui aussi, qui est conservé au musée du Louvre. C'est une commande pour un homme de droit qui s'appelait Lazio Cherubini, pour l'église Santa Maria della Scala, in Trastevere. C'est un édifice qui appartenait aux Carmes des Chaussées, c'était une branche réformée de l'ordre des Carmélites, et donc les Carmes des Chaussées avaient une vision très stricte, très sévère de la religion catholique, et Cherubini était ravi de l'œuvre. Par contre, les Carmes des Chaussées ont refusé catégoriquement qu'un tel tableau entre dans leur église. Et je vous disais tout à l'heure que les plus puissants se sont battus pour obtenir les œuvres du Caravage. C'est une œuvre qui, par la suite, a appartenu au roi d'Angleterre Charles Ier, puis à Louis XIV. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Louvre, aujourd'hui, la possède. Donc, c'est vous dire l'intérêt des plus puissants, pour cet artiste. Pourquoi ça a choqué les Carmes des Chaussées? Parce que la scène apparaissait comme étant très triviale. Notamment la pose et l'allure de la Vierge, qui est une femme aux pieds gourds, aux pieds sales. Alors on le voit peu malheureusement, on le verra peut-être plus précisément quand je mettrai mon diaporama en ligne, mais dans ce tableau, donc les personnages sont monumentaux, hein, le tableau est de très très grande dimension, et la Vierge a le corps lourd, a le corps fatigué, et elle a les pieds sales. Donc ça, c'était une forme de trivialité qui a beaucoup choqué les contemporains. Autre choix qui a choqué les contemporains, le cénacle de vieillards hagards et décatis tout autour. On est dans une scène extrêmement simple, on est dans un intérieur très rudimentaire, même si Caravage fait le choix de théâtraliser cette scène. Et ce rideau rouge qui vient surplomber les personnages valorise la scène, la met en valeur, la théâtralise. Mais c'est vrai que le sacré est pratiquement absent. Finalement, ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'on observe l'auréole très fine, très évanescente au-dessus de la tête de la Vierge. Donc finalement, on est dans le sacré. Mais de prime abord, ce sacré n'est pas évident. Caravage va quitter Rome à la suite d'une rixe meurtrière et à partir de là va mener une vie d'errance dans le sud de l'Italie et dans toute la Méditerranée. Et de cette époque datent des œuvres assez sombres. Et c'est vrai qu'il est assez tentant de mettre en parallèle le côté triste, le côté obscur de ces œuvres avec la vie d'errance que mène Caravage. Alors, l'une des premières œuvres qu'il réalise durant cette vie d'exil, c'est le repas à Emmaüs. C'est un tableau qui est aujourd'hui conservé à Londres. La pénombre, elle est omniprésente, elle vient renforcer le côté intimiste et le côté extraordinaire de la scène. Ça, c'est un épisode qui est narré notamment dans l'évangile de Saint-Luc. Jésus, en fait, apparaît après sa mort au cours d'un repas à Emmaüs, à deux de ses disciples, et les disciples ont la révélation de son identité alors que Jésus bénit le pain. Et c'est à ce moment-là qu'il révèle son identité aux pèlerins ébahis. La surprise des pèlerins ici, elle est palpable à leur regard stupéfait, à leur visage grimaçant. Alors c'est notamment le cas pour le personnage qui nous tourne le dos. Et la surprise est également palpable par le jeu des mains. Et je voulais notamment évoquer plus précisément le personnage qui est à droite du tableau, qui donc, par ses bras étendus et par ses doigts écartés, manifeste évidemment la stupéfaction, mais également engouffre le spectateur dans la scène. Et je disais tout à l'heure que Caravage, il s'inscrit un peu dans les codes de la contre-réforme parce qu'il va vouloir mettre le sacré à la portée de nous. Il va vouloir créer cette connivence, il va vouloir instaurer cette intimité avec nous. Eh bien là, cette intimité, elle est évidente puisque le spectateur est engouffré dans la scène. Alors j'évoquais tout à l'heure le goût du Caravage pour les jeunes hommes, les jeunes hommes, il y en a eu plusieurs, et là on est dans une image de Saint Jean-Baptiste qui est radicalement différente de ce qu'on peut voir à l'époque. Saint Jean-Baptiste, généralement, on le représente barbu, échevelé, avec sa peau de chameau, c'est pas l'archétype du personnage glamour, alors que là, on a un Jean-Baptiste jeune, sensuel, magnifique. C'est un appel à la chair, c'est un appel à l'amour, et c'est très provocant de la part de Caravage. Évidemment, je vous laisse imaginer le choc des contemporains, c'est une ode à la jeunesse. Tout est sensuel ici. La posture, la peau, le grain de la peau, cette lumière qui vient caresser l'épiderme de Saint Jean-Baptiste, et puis cette façon qu'il a d'enserrer le bélier qui est tout à fait suggestive. Alors, je ne vais pas évoquer Dominique Ponneau constamment, puisque c'est tout de même moi qui fais la conférence, mais Dominique Ponneau évoque ce tableau et l'évoque avec des mots qui à la fois rendent justice à la beauté de ce jeune homme, mais qui laissent présager le drame à venir. Parce que derrière cette apparente provocation, il y a quand même une tristesse, il y a quand même une mélancolie qui sourd comme la prémonition du drame à venir, puisque Saint Jean-Baptiste va être décapité, on le verra d'ailleurs tout à l'heure. Je cite juste Dominique Ponneau pour le plaisir des mots, là encore. Et je lui laisse donc la parole. Bien sûr, ici, Saint Jean est un jeune sauvage des forêts. Il est bien sûr celui dont l'Évangile dit qu'il s'en fut au désert jusqu'au jour de sa révélation devant Israël. Nu comme au désert, il est assis sur le linge blanc de son linceul et sur le drap rouge de son martyr, et il entoure de ses bras l'animal symbolique de l'agneau qu'il doit annoncer. Bien sûr. Bien plus sûr est l'extrême sensualité de ce jeune adolescent à la nudité totalement libre, qui enlace non un agneau, mais un bélier, et qui sourit, triomphant, au spectateur, parce qu'il est jeune, beau, totalement nu, au milieu de la splendeur de vêtements inutiles, sauf à leur splendeur même, assis non pas sur un manteau en poil de chameau, mais sur une fourrure, au milieu de plantes d'amour et d'ivresse, irradiant sa propre beauté offerte dans la nuit non de la prière, mais de l'abîme. Vision très belle, vision très vivifiante de la jeunesse. On va se délester de toute beauté et de toute légèreté dans cette œuvre-là, l'arrestation du Christ, qui est conservée en Irlande, à Dublin. L'arrestation du Christ, trahi par Judas, qu'on voit ici, embrassant le Christ. C'était le signal pour les Romains, pour l'arrestation de Jésus. On est dans une scène nocturne, avec ce fond noir, ce fond opaque, très oppressant. On a vraiment l'impression que le fond noir surplombe les personnages. Et du coup, les visages et les mains se détachent avec d'autant plus d'éclat et accentue le caractère dramatique de la scène. On a vraiment une impression de fatalité, une impression de pesanteur, et cette fatalité, elle est renforcée par la position du Christ, qui est repoussée dans la partie gauche, et qui est, comme fait prisonnier, à la fois par les effusions, par la façon dont Judas l'enserre, et qui est prisonnier également par ce soldat qui est claquemuré dans son armure et qui pose une main brutale sur son corps. Donc on a vraiment un sentiment d'oppression, un sentiment d'enfermement. Le Christ est engoncé dans cet espace clos, il n'y a aucun échappatoire possible. Et même son regard est baissé, il n'y a vraiment aucun espoir, le sort est scellé. Il est inéluctable, c'est la mort qui l'attend. Le désespoir culmine dans la mise au tombeau que peint Caravage vers 1602-1604, tableau de format assez imposant, composition étagée avec Jean et Nicodème qui sont voûtés, qui portent, hein, ils sont arqués dans l'effort, qui portent le corps du Christ, un corps immense, livide, blafard, les bras sont lâches, ils touchent le sol, le désespoir culmine, et ce désespoir il est accentué par les expressions de douleur et d'affliction de ces trois femmes, hein. Marie, bien sûr, qu'on reconnaît à son voile bleu, Marie-Madeleine et Marie de Cléophas. Tout concourt ici à accentuer le drame de la scène, hein, avec ses couleurs rouges et blanches qui, de prime abord, frappent l'œil et qui, bah, là encore, engouffrent le spectateur dans le tableau. Et là encore, je fais la référence au jeu des mains, à toute cette gestuelle des personnages qui vient englober le spectateur et qui l'invite à participer au drame chrétien. Autre œuvre religieuse, donc on navigue entre Ancien Testament et Nouveau Testament, le sacrifice d'Isaac, c'est une commande privée pour Maffeo Barberini, qui était un clerc à la curie romaine, collectionneur, mécène, et qui veut devenir le futur pape Urbain VIII. Le sacrifice d'Isaac, c'est un épisode tiré de la Genèse. Abraham s'apprête à sacrifier Isaac sur l'ordre de Dieu. Et puis, au dernier moment, il y a un ange qui intervient sur l'ordre de Dieu et qui l'empêche de massacrer son fils. Et là, ici, l'ange intervient, pointe du doigt Isaac, empoigne d'une main la main d'Abraham, et on a une figure d'Abraham un peu déroutante parce que bon, il est surpris, mais il est presque bougon, l'effroi de la scène, l'effroi, il est visible seulement dans la figure d'Isaac. Alors là, l'effroi est très visible, il contorsionne Isaac, hein, le visage est grimaçant, et il exprime toute la frayeur, toute la tension de ce sacrifice imminent. Et cette tension qui est vraiment palpable, hein, regardez le jeu des mains, on est vraiment dans l'effort, cette impression de tension, elle est renforcée par le cadrage resserré et par l'enchaînement des gestes et des regards. Autre œuvre religieuse, la Madone de Lorette. Alors, là aussi, hein, c'est une œuvre qui a été très dénigrée. La Madone de Lorette, c'est un thème qui va être très en vogue au XVIIe siècle. Il y avait un culte de la Sainte Maison de Lorette. La Sainte Maison de Lorette, en fait, c'était la maison de la Vierge à Nazareth qui, inopinément, aurait débarqué en Italie. Et donc, il y avait un culte en Italie, près d'Ancône, autour de cette Sainte Maison de Lorette. Les personnages ici sont monumentaux, ils sont très imposants. Le spectateur est face au pèlerin agenouillé, et plus précisément, il est face aux pieds de ce vieil homme. Des pieds sales, des pieds crevassés, des pieds fatigués, donc toujours ce côté prosaïque qui vient instaurer une connivence. Ces pèlerins pourraient être des gens comme vous et moi. Donc on est dans une pratique religieuse qui n'est pas du tout dans la déférence, dans la distance. Au contraire, on est dans la simplicité, on est dans l'humilité. Et sur une marche, surplombant le spectateur, on a la Vierge qui tient l'enfant, un enfant démesurément immense, et qui donc a des proportions totalement étonnantes. Caravage veut ici évidemment insister sur la tendresse qui unit une mère à son fils. Donc on est très très loin des représentations hiératiques traditionnelles de la Vierge à l'enfant qui forcément génère une distance. On est très révérencieux par rapport à cette iconographie d'habitude. Là, pas du tout. Au contraire, on est vraiment dans la proximité la plus simple et la plus naturelle. Caravage, il abolit toute distance avec le sacré. Et c'est vrai qu'en représentant ces pèlerins, comme un couple âgé, fatigué, sale, il franchit un pas de plus dans la désacralisation. Pas au sens péjoratif du terme, hein, vraiment au sens amélioratif. Le but de Caravage, c'est vraiment d'instaurer une connivence, une complicité avec le sacré. scandale retentissant, évidemment, puisqu'on a, violemment critiqué justement l'intrusion de ces gens sales, si près, si proches de la Vierge et de Jésus. Autre scandale, la Madone des Palefreniers. C'est une commande de la confrérie des Palefreniers pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc la basilique Saint-Pierre de Rome, l'édifice chrétien par excellence, qui durant cette période de la contre-réforme cristallise des commandes plus prestigieuses les unes que les autres, et Caravage réalise ce tableau qui va beaucoup choquer parce que la représentation de l'enfant Jésus nu, assez imposant, on n'est plus du tout dans l'enfance, on est déjà quelque part dans une, comment dire, dans une représentation un peu sexuée, ça a beaucoup choqué les contemporains. Donc l'œuvre a été refusée, elle va être acquise néanmoins par un collectionneur et pas des moindres, Scipion Borghese, qui était paradoxalement le neveu du pape. Donc l'Église est très hypocrite à cette époque, elle refuse officiellement ce type d'œuvre, alors qu'officieusement elle se délecte de pouvoir les collectionner. Le souper à Emmaüs. Je vous ai montré tout à l'heure une première version de ce tableau, en voici une deuxième, donc peinte un peu plus tard, en 1606. La pénombre là est omniprésente. Tout à l'heure on avait encore un peu de lumière. La lumière elle vient juste éclairer les visages, mais le lieu dans lequel les personnages sont installés, le lieu est d'un noir opaque. L'arrière-plan a totalement disparu et du coup ce fond noir et opaque vient renforcer la surprise des personnages. Alors la surprise des personnages, elle est visible, on retrouve toujours ce jeu des mains et ce disciple-là qui se cramponne à la table pour marquer sa stupeur invite aussi quelque part le spectateur à pénétrer dans la scène. La simplicité, elle est aussi visible dans le couple d'aubergistes qui assiste à la scène sans être finalement très présent, sans finalement comprendre ce qui se passe réellement. Là aussi, c'est vraiment l'intrusion de la simplicité et la volonté de lier le sacré et le profane. Caravage donc mène cette vie d'exil dans le sud de l'Italie, nouvelle rixe qui se termine très très mal puisqu'il tue un homme et il va partir pour Naples. Je suis en train de me dire que je vous raconte n'importe quoi là. Il était encore à Rome. Excusez-moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des nuits hachées. Donc il y aurait des lapsus. Bon, alors là, il y a eu un bug. Donc il se balade, hein. Mais il reste quand même dans la géographie romaine. Là maintenant, il part pour Naples et ensuite il va partir pour Naples. Non, 1, 2, 3. Il part pour Naples et ensuite il partira pour Malte. Alors, Naples, à cette époque, sud de l'Italie, ville cosmopolite par excellence, Naples, elle a eu un destin totalement fascinant parce que c'est une ville qui a été au Moyen-Âge normande, ensuite elle devient germanique, ensuite elle devient angevine et à l'époque du Caravage, elle est sous domination espagnole. Donc du coup, c'est un vrai vivier d'artistes. Il y a des artistes venus de toute l'Europe, venus d'Espagne bien sûr, mais venus également de France, d'Allemagne et Caravage va se plaire dans cette ville. Bon, il va malheureusement se mettre dans des combines épouvantables, il va devoir la quitter assez rapidement. Mais néanmoins, il va laisser certaines œuvres. Et c'est au cours de ce séjour à Naples qu'il peint les sept œuvres de la Miséricorde. Tout à l'heure, j'évoquais dans les scènes consacrées à Saint Matthieu, et plus précisément au martyr de Saint Matthieu, j'évoquais le chaos, j'évoquais la fougue. Bah, là, on la retrouve, cette fougue, dans ce tableau, avec cette foule chaotique qui est surplombée par les anges qui surgissent dans une espèce de nuée de draperies et d'ailes, et qui viennent comme s'écraser sur ces personnages. Ça donne un effet de pesanteur et presque un côté effrayant à l'apparition de la Vierge et de l'enfant que l'on reconnaît dans la partie supérieure du tableau. Les sept œuvres de la Miséricorde, hein, ce sont les sept œuvres dont doivent s'acquitter les chrétiens. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, etc. on retrouve cet enchevêtrement des corps dans la flagellation du Christ, donc c'est pas également à Naples, et on retrouve également ce balai laborieux des mains, des pieds, tout autour du corps immense du Christ, un corps un peu disproportionné aussi, mis en valeur par la lumière, hein, et cette lumière, elle renforce le côté dramatique, parce que le corps du Christ est livide, il est presque cadavérique, ça préfigure sa fin imminente, et ce qui donne une impression de malaise aussi, c'est cette espèce de balai des bourreaux qui semble effectuer une danse macabre tout autour de lui. Il est cerné de part en part, et donc on a un sentiment d'inéluctabilité quelque part quand on observe ce supplice. Salomé reçoit la tête de Saint Jean-Baptiste. Alors voilà une image qui tranche avec la vision tout à l'heure très belle, très, très éthérée, très sensuelle de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste dont on ne voit ici que le chef, toute la souffrance, toute la douleur, elle se lit ici. Il est échevelé, la bouche entrouverte, il baigne dans une mare de sang. Et on a le bourreau grimaçant qui brandit la tête, et on a le visage figé dans la dans la fermeté, dans l'absence totale de compassion, de solidarité de Salomé. Donc on a vraiment un contraste entre cette vision très douloureuse du chef de Saint Jean-Baptiste et ce visage très fermé, très sûr de lui de Salomé. Caravage donc est obligé de quitter Naples suite à une rixe mortelle, et il va aller à Malte. Malte, c'est une île en Méditerranée. Il va se positionner à Malte parce qu'il va devenir chevalier sur décision du pape Paul VI. Donc c'est un premier pas vers le pardon, hein, après ces frasques romaines. Et être chevalier de Malte à l'époque, c'est un honneur énorme, et ça sous-entend du coup un mode de vie qui va de pair avec cette charge, donc ça sous-entend une certaine austérité. Caravage ne va pas y arriver. Malte, à cette époque, est tenue par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, c'est l'une des plus anciennes institutions de la chrétienté, qui a été créée au Moyen-Âge dans le contexte des croisades, et cet ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem est à Malte depuis le XVIe siècle. Auparavant, il était, comme son nom l'indique, à Jérusalem. L'une des œuvres les plus emblématiques de cette période, c'est la décollation de Saint Jean-Baptiste. Et bah, là aussi, on a une scène assez horrifique. C'est une immense composition, hein, le tableau fait plus de 5 mètres de long. Et le drame, proprement dit, est cantonné dans la partie gauche du tableau. On a ce bourreau immense, la lumière vient l'éclairer et vient singulariser son acte. Le bourreau est voûté au-dessus de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste, il est plaqué au sol, plaqué fortement, la lumière l'éclabousse, le sang aussi l'éclabousse, et le corps est mis en valeur par le drapé rouge qui le couvre en partie et qui évoque justement le sang du martyr. Et on a toujours cette figure de Salomé, très sérieuse, très besogneuse ici, hein, puisqu'elle amène le plateau, elle s'apprête à recueillir de façon très pragmatique le chef de Saint Jean-Baptiste. Donc on est dans le drame, la figure de la servante, hein, qui se tient la tête dans un geste de peur, montrer de façon assez explicite l'horreur de la scène qui est vue par ces deux témoins qui sont dans la partie droite du tableau. Et donc on est vraiment dans un drame un peu anecdotique, avec ces deux témoins qui sont un peu comme des badauds qui assistent à la scène. Voilà, tout est tragique dans cette fin de Saint Jean-Baptiste. L'horreur du martyr, bien sûr, mais aussi quelque part l'anonymat de son martyr. Donc Caravage est chevalier de l'ordre, et puis bon, il va se battre à nouveau, il va être emprisonné, il va réussir à s'échapper, et il va décider de partir en Sicile. De cette période sicilienne, on connaît peu de choses, on conserve peu de choses également. On conserve ce tableau-là, intitulé « Les funérailles de Sainte Lucie », un tableau qui est de dimension très imposante. On a une composition ascendante, la focale elle se resserre dans la partie inférieure du tableau et elle se resserre très rapidement sur le corps de la sainte qui est tendu au sol, alors qu'au premier plan on a les fossoyeurs qui s'affairent à creuser sa tombe. Et on est dans l'obscurité la plus totale, la lumière elle est à peine perceptible. Elle vient éclairer le visage des personnages qui assistent à cette illumination. C'est aussi cette obscurité voulue, hein, c'est une référence aux catacombes, ces lieux qui servaient de refuge aux premiers chrétiens dans l'Antiquité. En Sicile, Caravage se bat à nouveau, il est blessé et... pendant toute cette vie d'exil qu'il mène dans le sud de l'Italie, tous les protecteurs qu'il avait, notamment Del Monte, vont essayer d'obtenir le pardon pontifical. Et à ce moment-là, ils sont en bonne voie. Donc Caravage est blessé, se lasse de cette vie d'exil, qui est quand même une vie faite de surprises, et bien souvent de mauvaises surprises. Et comme il sait que ses protecteurs s'affairent à préparer son pardon, il se décide à revenir à Rome. L'une des dernières œuvres de cette période, c'est le reniement de Saint-Pierre. C'est pas une œuvre que j'ai choisie au hasard, c'est une œuvre qui, je trouve, est très différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La lumière est quasi inexistante et on a une touche très pâteuse. On a une facture très différente des œuvres qu'on a vues jusqu'à maintenant, comme si finalement Caravage était dans la fébrilité et brossait à coup rapide cet épisode biblique. Et je trouve que cette facture, cette façon de faire, colle assez bien à cette fin de vie qui est dans l'urgence, qui est dans la fébrilité, dans la non-connaissance de ce qu'il se passera le lendemain. Saint-Pierre hein, renie par trois fois le Christ, donc là encore, hein, une figure faillible, et donc une figure de choix pour la rhétorique post-tridentine. Caravage donc cherche à revenir à Rome, il n'y arrivera pas, il meurt en 1610 et il n'obtiendra du coup jamais le pardon pontifical, alors que, paradoxalement, ironie du sort, les tractations avaient réussi. Donc Caravage meurt seul, vie de misère, vie de bohème, vie difficile puisqu'il va sans cesse devoir se justifier, il va sans cesse devoir subir les critiques virulentes de ses contemporains et paradoxalement il va léguer une leçon à l'histoire de l'art totalement magistrale. Je ne voudrais pas clore le cours ici, je vous libérerai, hein, ne vous inquiétez pas, mais je voulais faire une sorte de digression sur le legs du Caravage. Voilà, je ne voulais pas terminer sur sa mort, je voulais terminer sur sa postérité. Et je voudrais montrer comment la leçon de Caravage, elle a été ingérée et digérée par ses contemporains. Caravage, tellement dénigré par ses contemporains, a à ce point influencé les artistes du XVIIe qu'on parle de caravagisme pour désigner le clair-obscur qu'il a mis au point et qui donne à ses œuvres toute cette tension dramatique. Évidemment, les artistes romains du XVIIe siècle vont être influencés par Caravage, mais au-delà, tous les artistes en Europe vont récupérer cette leçon et vont se l'approprier. Et je voulais donc évoquer certains artistes parmi les plus célèbres du XVIIe siècle qui ont été influencés par le Caravage. Je voulais évoquer notamment Orazio Gentileschi. J'ai un accent italien épouvantable. Gentileschi, il est toscan, il est originaire de Pise. C'est l'un des principaux caravagesques. Il a fréquenté le Caravage à Rome. Et c'est intéressant parce qu'il a une trajectoire passionnante. Au début, c'était un maniériste. Donc, choix de sujets compliqués, des couleurs très vives, parfois très artificielles, des poses compliquées, très alambiquées. Et il va abandonner le maniérisme, il va abandonner tous ces effets artificiels pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sobre, et il va embrasser le clair-obscur et ça va donner à ses œuvres un côté percutant totalement inédit. Un bon exemple ici, Cupidon et Psyché, les amours de Cupidon et Psyché hein, qui provoquent la jalousie de la déesse Vénus. Et on a ce conciliabule entre Cupidon et Psyché avec cette blancheur immaculée du drap qui est un contrepoint lumineux à l'obscurité omniprésente et qui éclaire avec force les personnages et qui manifestent leur complicité, leur amour. Autre artiste italien, très influencé par Caravage, Bartolomeo Manfredi. Alors Manfredi, il est lombard, tout comme Caravage, et il va découvrir ses œuvres à Rome. Là, j'ai choisi Le Triomphe de David. Bon, je ne l'ai pas choisi par hasard, cette œuvre-là. C'est parce qu'il y a aussi un côté sanguinolent et donc un côté tragique. Et ce côté tragique, encore une fois, il est mis en valeur, il est théâtralisé par le clair-obscur. Et ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, ce qui est rigolo, tout est relatif, mais... bon, David et Goliath, hein, c'est le petit contre le gros méchant. Et David, ici... on a l'impression qu'il est immense. On a l'impression qu'il est très fort, qu'il est très puissant, très invulnérable. Il est un peu vu en contre-plongée et il y a cette lumière qui vient éclairer son visage. Et donc du coup, on est d'autant plus frappé par l'audace de son geste. Et l'audace de son geste, elle est matérialisée par le chef de Goliath, la bouche ouverte, hébétée, avec la trace de sang qui timbre son front. Autre artiste italien, Carlo Saraceni, c'est un artiste vénitien, il naît à Venise, il meurt à Venise. Il va connaître Caravage, ils vont se fréquenter l'un et l'autre. Et tout à l'heure, je parlais d'ingestion du clair-obscur, ben là, on est dans la digestion du clair-obscur. C'est-à-dire que Saraceni, il utilise les effets dramatiques du clair-obscur, mais on a une palette beaucoup plus riche, avec des couleurs très fortes, presque saturées. C'est très, très manifeste, notamment dans la robe de Sainte-Cécile, qui est en train de subir son martyre. Et le fond neutre vient valoriser cette scène très, très crue et très lumineuse. Valentin, artiste français qui en fait a mené toute sa carrière en Italie, le concert au bas-relief. J'ai pas choisi Valentin par hasard. C'est une œuvre qui a appartenu au roi Louis XV. Il y a toute une vogue du clair-obscur en France au XVIIe siècle. On a ici dans la pénombre des personnages qui sont massés autour de ce bas-relief antique dont ils se servent comme d'une vulgaire table autour de laquelle se réunir. Et là, Valentin peint le quotidien. Il y a un certain mystère, néanmoins, grâce à ce clair-obscur. Et tous ces peintres du quotidien qui ont eu recours à ce clair-obscur vont être appelés les peintres de la réalité. Alors bon, ça, c'est une autre histoire. L'expression, elle est d'un critique d'art qui s'appelait Jules Champfleury. Et ces peintres de la réalité vont avoir un énorme succès en France à cette époque. Alors j'aurais pu évoquer des artistes comme les frères Lenain, par exemple. J'aurais pu évoquer, alors même si on n'est pas vraiment dans le caravagisme, mais néanmoins il y a quand même un clair-obscur magnifique, j'aurais pu évoquer Georges de Latour aussi. Voilà, tous ces artistes du XVIIe siècle français vont exploiter à fond toutes les possibilités dramatiques permises par le clair-obscur. Et je voulais terminer par cet artiste hollandais. Alors là aussi, je vais écorcher son nom, Gerrit van Honthorst, qui est un artiste originaire d'Utrecht. Utrecht, c'est aux Pays-Bas, et c'était une ville qui avait des liens diplomatiques assez approfondis avec l'Italie. Donc du coup, il y a beaucoup d'artistes hollandais qui ont fait leur carrière en Italie. C'est le cas de cet artiste. Et je n'ai pas choisi cette œuvre-là par hasard. Je l'ai choisi évidemment pour son clair-obscur, mais je l'ai choisi également pour toute la gestuelle des personnages autour du Christ qui sont ricanants, qui sont grimaçants et qui s'amusent à humilier, à torturer le Christ. Et en fait, je voulais faire le rappel toujours de cette gestuelle des mains et des doigts qui vient cercler le Christ. Donc on a cette impression d'enfermement, cette impression d'espace clos, et on est un peu dans une sorte de ronde infernale. Ça rehausse un peu le côté inéluctable de la scène. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je voulais aussi évoquer Giuseppe de Ribera. Et puis après, j'arrête. Giuseppe de Rivera, c'est un artiste espagnol qui a travaillé à Naples. J'ai dit tout à l'heure que Naples est une ville très cosmopolite, et à l'époque du Caravage, c'est une ville sous domination espagnole. Donc il n'est pas étonnant de trouver Giuseppe de Rivera. Et là encore, une ingestion du clair-obscur. On n'est pas du tout dans des couleurs utilisées par Caravage. On est dans des couleurs... Il y a comme un fondu ici. Il y a comme une facture qui évoque presque l'aquarelle. C'est très sensible au niveau de ce ciel oppressant qui vient nimber les personnages d'un certain mystère. Et du coup, cette touche fondue, cette lumière qui vient éclairer Saint-Barthélemy atténue un peu le martyre de l'homme. Finalement, ce n'est que dans un second temps qu'on se rend compte de la tâche du bourreau qui consiste à écorcher vif Saint-Barthélemy. Donc on est dans quelque chose de très brutal, de très gore, hein, pardon pour l'expression, et c'est totalement contrebalancé par les choix stylistiques de Ribera. Voilà, donc... Ce qu'il faut retenir, c'est que le legs de Caravage est omniprésent dans cette Europe du XVIIe siècle. Et pour résumer, sur la forme, ça va être ce clair-obscur qui va être diversement interprété par les suiveurs de Caravage. Et sur le fond, c'est cette volonté d'instaurer une proximité avec le spectateur dans ce contexte de la contre-réforme. Caravage, il va mêler le spirituel et le charnel, il va bouleverser les hiérarchies, ça va être critiqué, c'est vrai, mais c'est aussi sa force. Il va bouleverser les hiérarchies pour ancrer pleinement le spirituel dans la réalité, même la réalité la plus prosaïque. Alors, il va être conspué pour avoir désacralisé le sacré, mais en même temps, quand on y réfléchit bien, il est pleinement dans cette volonté de rénovation du religieux, il est pleinement dans les clous de la contre-réforme en instaurant cette connivence, ce rapprochement avec le sacré. Et je voulais finir par les mots de Marc Fumaroli, qui est un historien d'art qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « L'école du silence ». Alors lui aussi, il manie la langue magnifiquement. Et il écrit Fumaroli à propos de Caravage, « La prétendue révolution caravagesque est en fait une des plus profondes interprétations par un peintre de génie de la spiritualité chrétienne de la réforme catholique. » Et là, tout est dit. Voilà. Alors, pardon pour les lapsus et pour les bugs. Ça ira mieux la semaine prochaine. Là, j'avais le trac aussi. C'est vrai.
Oui, moi j'avais une question sur la mort du Caravage, qui est un petit peu, comment dirais-je, épique entre guillemets, puisque il arrive à Porto Ercole, d'après ce qu'on a dit, ayant perdu ses maigres bagages, donc il erre sur la plage, à la recherche de son bateau. Il meurt, autant que je puisse me rappeler, le 18 juillet 1610. Et le 17 juillet, la grâce pontificale avait été signée à Rome, puisqu'il avait tué Tomazzoni, au cours d'une risque un petit peu bizarre. Est-ce qu'on a une trace de sa sépulture ?
Non. Alors, il y a quelque temps, on avait retrouvé les ossements du Caravage. Et en fait, visiblement, c'était un coup. Mais c'était un coup médiatique. Pour l'instant, on n'a aucune trace de sa sépulture. On ne sait même pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il meurt sur cette plage de Porto Ercole, mais on ne sait pas du tout ce qu'il advient de son corps. Donc, il est tout à fait possible qu'il ait été enterré dans une fosse commune. D'une fièvre, mais voilà, on ne sait pas exactement. Je suis pas sûre que ça marche encore. Je me tais. Voilà, et ironie du sort, effectivement, alors que les tractations pour son pardon étaient menées à bien et se concrétisaient. Donc c'est vraiment le tragique dans toute sa splendeur.
Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis là.
Je vois pas. Pardon, excusez-moi.
Oui, tout d'abord, je voulais dire qu'entre le noir que vous portez et la lumière réfléchie de la lampe, vous nous avez offert un joli
cadeau. Je suis caravagesque aussi.
Qui aurait certainement inspiré le Caravage s'il avait été avec nous ce soir.
Bon.
Voilà, un peu plus sérieusement, il aurait été intéressant que Dominique Fernandez puisse faire parler Pierre Pasolini de la même façon qu'il a fait parler le Caravage au début, et je pense que mettre les deux textes en regard, on va sans doute trouver beaucoup de similitudes. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah mais oui, mais totalement, il y a une concordance des destins voilà, totalement troublante. Ouais, ça c'est un truc dont j'aurais dû parler, mais oui, ouais, totalement.
Oui, bonsoir. Vous avez laissé entendre que Caravage s'insérait parfaitement dans la contre-réforme, dans l'esprit religieux de la contre-réforme, et j'avais l'impression qu'au contraire, dans le bouquin de Dominique Fernandez, que vous avez cité au début, c'est que ce qui est suggéré, c'est qu'au contraire, toute sa vie d'artiste, Caravage a louvoyé avec la censure. Alors, est-ce que ces tableaux doivent être interprétés comme des tableaux religieux, ou bien est-ce que, bon, il n'y a pas des tentatives de contourner la censure, de louvoyer par rapport à ces mécènes qu'est-ce qu'on peut en penser?
On peut porter différents regards. Il est Caravage, les tableaux qu'il réalise sont à l'exact opposé des bons petits soldats de la contre-réforme qui font des peintures très, comment dire, très claires, très, bon, c'est le baroque, hein, quoi, enfin bon, très, très, très éclatantes, très, très colorées. Il y a plein d'artistes qui s'inscrivent dans une sorte de pédagogie de la contre-réforme. Caravage, il n'est pas du tout là-dedans. Il n'est pas du tout dans cette complaisance-là. Et tous ces artifices utilisés par ces artistes de la contre-réforme, Caravage il les vomit, c'est pas du tout ça. Caravage il est dans cette volonté de peindre des choses avec une économie de moyens quelque part qui est radicalement à l'opposé des recherches de ses contemporains baroques. Là où je dis qu'il y a une qu'il est dans les clous de la contre-réforme, c'est dans cette volonté voulue par le Concile de Trente d'instaurer une connivence avec le sacré. Le Concile de Trente, il faut bien se replacer dans le contexte historique, hein. L'Église catholique et romaine, elle a pas mal de difficultés dans ce XVIe siècle, donc il y a de multiples réformes qui se mettent en place dans l'Europe, certaines beaucoup plus radicales que d'autres, hein. Il y a toute une vague d'iconoclasme, notamment en Angleterre, en Allemagne. L'Italie, elle cherche, enfin l'Italie, l'Église catholique et romaine en Italie, cherche vraiment à réaffirmer le dogme catholique et à le réaffirmer visuellement. Les protestants veulent pas d'image ? Très bien, on va en donner de l'image. On va donner une image éclatante, on va donner une image magnifique. On va montrer à quel point le dogme chrétien est splendide et donc totalement incontestable. Donc, d'un côté, il y a des artistes qui vont être pleinement dans cette optique-là, qu'on pense à tous les décors dans les églises de Rome, avec ces impressions, toutes ces peintures, on a l'impression que la voûte va s'écraser sur nous, on est complètement assommé par le prestige de l'Église catholique. Et d'un autre côté, on a d'autres artistes qui vont choisir quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus rudimentaire, mais qui vont chercher à réaffirmer à leur échelle ce message religieux. C'est vraiment de ce point de vue-là que je disais que Caravage il s'inscrivait dans cette réforme post-tridentine. C'est dans la volonté de mettre le religieux à la portée du profane, à la portée du simple. Et dans les tableaux de Caravage, les héros, c'est bien souvent les simples. Ils sont omniprésents dans son œuvre. Alors effectivement, il y a de jeunes hommes très beaux et très aguicheurs. Oui, mais il y a aussi des vieux pèlerins aux pieds sales, aux pieds crevassés. Il y a aussi un vieux Joseph qui se repose pendant la fuite en Égypte parce qu'il est humain, trop humain, totalement épuisé par son périple. Voilà, c'est cette simplicité-là, ce goût pour l'homme du peuple. Que Caravage a suivi tout au long de sa vie, c'est dans ce sens-là qu'il est dans l'optique de la contre-réforme. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Oui. Donc je reviens la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait un bond dans le temps. On va faire un bond dans le 18e et dans le 19e siècle avec deux artistes qui ont travaillé en Angleterre, William Blake, Henry Fuseli. Donc là aussi, vous verrez, mon accent est catastrophique. Voilà, deux artistes dont les visions sont assez hantées. On le verra.
Merci Laurent.